Chapitre 2. Nicole connaissait et aimait beaucoup Dagobert, si bien que le dit Dagobert fournissait Nicole en légumes, canards et poulets qu'il lui apportait tout préparés. Elle le conseillait en tisane, en herbes rares, et Dagobert avait enseigné à Nicole des recettes africaines contre tous les petits maux, des mixtures de sorciers. Et parfois, ils se racontaient leur vie. Dagobert donnait des nouvelles des essarts, du monde qui s'y trouvait, des femmes, des mariages, des gens parallèles qui passaient, car les essarts, on le sait, étaient une petite planète où l'on aurait trouvé des romans à écrire. Et quand Dagobert avait apporté à Nicole les provisions de 2 ou 3 jours, il prenait un siège que toute pharmacie réserve aux gens mal en point dans l'attente d'un vulnéraire ou d'une poupée. Il trouvait sa boîte à rouler, Nicole lui offrait une pastille d'eucalyptus et le grondait de fumée, ainsi sans souci pour sa santé, mais Dagobert répondait à chaque fois qu'il était trop vieux pour préserver une vie qu'il aurait acquittée bientôt, qu'il devrait d'ailleurs être non mort depuis longtemps, mais que la seule personne qu'il regretterait vraiment de ne plus voir, c'était son dernier fils. Cet homme, il l'avait aimé du premier coup et l'avait reçu et protégé comme son véritable fils, exactement, mademoiselle. Ah, il avait bien fait, mademoiselle. C'était le bon Dieu qui, ce jour-là, lui avait rendu visite, comme il l'avait fait pour Abraham sous le chêne de Mamré. Mais ce bon Dieu-là, il avait travaillé dur chez Dagobert, oui. Nicole ne prenait pas grand garde aux propos de Dagobert. Elle servait les clients, remplissait les feuilles de maladie, collait les vignettes, soignait les bobos, écoutait une bribe de phrase, répondait à « Oui, bien sûr, Dagobert », avec un sourire distrait. Et dans sa confiance de vieil homme qui croit à l'attention d'une bien jolie femme, il poursuivait un monologue répétitif. Ailleurs qu'au chapeau rouge, on l'aurait mis dehors poliment, certes, mais sans l'écouter, ni lui offrir à s'asseoir. Il avait fait le marché, avait tenu debout près de 4 heures. La chaise de Nicole était un havre de repos, et cela le rendait bavard, parce qu'il se sentait là presque mieux que chez lui. Oh, chez lui, il n'y parlait plus guère depuis quelque temps. Ses fils le respectaient comme le voulait la tradition et attendaient pour parler que le père ait fini de discourir lui-même, mais les petits-fils avaient pris des manières à la française. Dagobert ne pouvait placer un mot devant eux, il lui coupait la parole, rigolait quand il leur faisait la morale. « Ils sont pas méchants, » disait Nicole. « Non, mademoiselle, mais tout ça, ça me rend quand même bien triste. Je dis pas toujours, par moments. » Mais ils sont jeunes, Dagobert. Dans votre jeunesse, vous avez eu sûrement des maux avec votre père ou le chef de votre village. Les adolescents aiment se rebeller. Ah non, mademoiselle, alors non, j'aurais jamais osé parler à mon père comme ça. Mais il m'aurait jeté aux bêtes de la savane et tous les gens du village m'auraient chassé. Oh là là là, oh non, oh et puis c'était pas pareil. Même quand je suis arrivé en France, c'était pas pareil non plus. Oh là là, bon, allez, faut que je me lève et que je retourne aux essarts. On doit commencer à m'attendre. Merci de la chaise, mademoiselle. Ah, mon Dagobert, disait Nicole, laissant à son hôte habituel une boîte de bonbons au sésame. J'aime que vous me parliez simplement comme vous le faites. Ça vous repose de me dérouler vos confidences et... Vous savez que je les écoute. Et si vous avez trop d'ennui et que vous ayez besoin de moi, bien, je viendrai dès que vous m'aurez fait appeler. Restez encore un peu à vous reposer, le marché vous fatigue. Oui, mais il faut dégourdir mes vieilles jambes. Non, mais c'est bien, Dagobert. Alors, je vous ai fait une petite liste pour samedi. Vous m'apporterez ceci et cela, c'est entendu. « Oh oui, mademoiselle, c'est entendu et bien marqué. » Et Nicole raccompagnait Dagobert jusqu'à la petite carriole que tirait un grison. Dagobert s'asseyait en biais sur l'emplanture d'un brancard, donnait une petite tape sur la croupe de la bête et faisait à Nicole un petit signe d'adieu décoré d'un sourire complice. Et l'âne emmenait son maître sans bâton ni carotte. Nicole rentrait à l'officine, songeant à ce rituel dont la fin possible lui donnait d'avance quelque tristesse vague, mais le travail écartait d'elle tout excès d'appréhension. Et puis, où elle avait rarement le temps de songer, ce n'est pas que la science pharmaceutique ait de lui grande place dans son existence quotidienne, car Nicole perdait des foules d'heures à faire des comptes, à déclarer des monceaux de taxes, à se fatiguer dans des contrôles ahurissants par leurs bêtises, ou plutôt leur aspect humiliant. Les Français perdent plus d'énergie dans les tracasseries fiscales que les Russes à faire la queue. D'un autre côté, elle avait les dames de charité. Si Nicole avait accepté l'invitation de Madame Dignac, digne et sévère épouse de son ancien prof de physique, c'était plus par reconnaissance pour un homme qui avait contribué grandement à sa réussite que par sentiment de pitié. Avoir une image du Sacré-Cœur dans sa chambre ne pouvait rien. Les gens du peuple sont plus superstitieux que croyants. Nicole ne savait rien du catéchisme et ne fréquentait pas les confessionnaux. Dans sa jeunesse, elle avait entendu sur les curés plus de naïves histoires de fesses que de propos franchement agressifs. Pour se rehausser à leurs propres yeux, les humbles répètent les satires d'intellectuels en mal de sujet. Un vendredi avant midi, Dagobert ne vint pas apporter la commande à la pharmacie du Chapeau Rouge. Nicole ne s'en inquiéta pas outre mesure, mais elle savait Dagobert fidèle et personne n'était venu des Essarts apporter les deux cagettes de volailles et légumes prévues pour le dimanche suivant. Or, à 4 heures de ce même vendredi, Madame Dignac arriva. Elle était essoufflée et pâle. « Ma pauvre Nicole, c'est affreux ce que je viens d'apprendre. »« Mais que vous est-il arrivé, madame? Vous me faites peur. »« Oh, à moi rien, Dieu merci. C'est au quartier du Nègre. »«
Quoi? Dagobert est mort? »«
Oh, pas du tout, ou du moins, c'est pas ce qu'on m'a raconté. » On m'a dit que ce matin, il a eu une terrible bagarre aux Essarts, que la police s'est rendue sur les lieux et n'a pu que ramasser un cadavre tout lardé de coups de couteau, baignant dans une énorme flaque de sang. Oh, c'est horrible, il va falloir que votre groupe des dames fasse quelque chose, qu'au moins deux d'entre nous aillent vous voir donner des soins peut-être. Alors, puisque vous êtes notre pharmacienne, pensez que vous pourriez...
Nicole confia l'officine à sa préparatrice, garda sa blouse blanche, passa son manteau noir, prit sa trousse des pansements d'urgence, sortit avec Madame Dignac qu'elle installa en voiture. On arriva au quartier du Nègre. Quand on quittait le chemin empierré, on se trouvait dans une grande cour où dominait l'ancienne maison Bournalès-Juvin. La grande terrasse à balustres était devenue un entrepôt de ferraille et de bois entassés, les volets ouverts, des entrelacs de planches assemblées avec des clous ou les ficelles, et les anciennes portes-fenêtres à petits carreaux portaient plus de carton d'emballage que de vitres. La grande porte du centre restait entrouverte parce qu'on ne pouvait plus la fermer et son ancienne peinture en brun vandique ne portait plus que des écailles délavées, rincées par des fouettées de pluie ou brûlées par des soleils. Traînaient un peu partout des bassines de gros bidons d'hydrocarbures finissaient de rouiller. Des pneus, des tuyaux, de vieux landaux, des chaises de jardin, un bric-à-brac de tout et n'importe quoi sur les voitures à plateau, voire dans les guimbardes. Madame Dignac et Nicole montèrent les marches de la terrasse et entrèrent à droite dans une grande pièce au staff délabré, pleine de matelas et d'objets hétéroclites,
allant de la machine à coudre au poêle, du bocal à lavement aux journaux entassés et jamais lus. Trois femmes s'affairaient devant la table près de la fenêtre située à droite quand on entrait. Quelques enfants de tous âges étaient étendus sur des paillasses. Ils se levèrent à l'entrée de nos dames et se mirent à pleurer en hurlant au milieu de hoquets qui avaient quelque chose de forcé, manifestement. Nicole demanda aux femmes si Dagobert était là et elles lui montrèrent du bras, dans le fond gauche de la salle, un grabat entouré de quatre colonnes comme un baldaquin du haut duquel on aurait pendu des draps sales en guise de damasserie. L'une des femmes alla ouvrir violemment ce qu'on pourrait appeler des rideaux, parla un langage incompréhensible. Dagobert pivota, s'assit au bord du semblant de lit et apparut aux dames avec une barbe blanche d'une semaine. « Qui c'est ?» dit-il en sommeillé. « Oh, mais je reconnais la bonne mademoiselle Nicole !»«
Oui, c'est moi. Je suis venu avec Madame Dignac, qui dirige le groupe des Dames de Bon Secours. Alors nous sommes là pour le cas où il y aurait des enfants ou des personnes à soigner. Dagobert, vous savez ce que nous pouvons faire ?»«
Mais tout est fini, mademoiselle Nicole. » « Oh, comme vous êtes gentil d'être arrivé avec moi. Vous allez boire du thé à la menthe et la dame aussi. »
Dagobert ayant parlé, une des femmes apporta trois tabourets d'une crasse à faire hésiter. Madame Dignac hésita. On s'assit et Nicole entreprit tout de suite de savoir l'affaire du matin. Dagobert, ne sachant comment s'y prendre, envoya un des gosses qui s'étaient tous assis par terre et suçaient leurs pouces. Pendant que Dagobert demandait des excuses pour le désordre, disait que le mort était un certain Sylvestre Bénard, autrement dit Sylvestre Bénard, un clochard riche qui venait aux Essarts depuis un an et s'était déjà battu avec un fils de Dagobert pour des affaires d'argent empruntées et non rendues. Le gosse revint accompagné d'un homme assez grand. Vêtu d'un pantalon de velours marron, d'une marinière en bleu de travail sous laquelle il portait un pull à col roulé, nanti d'une barbe taillée mais imposante, l'homme avait dans une main une clé à molette historiée de cambouis. Il fit aux dames un signe de tête en qualité de bonjour respectueux, mais distant, prudence oblige, prit un tabouret et s'assit à la paysanne, sans vouloir faire remarquer ses godillots cloués assouplis à la graisse de bœuf.
« Tu prendras bien un thé à la bande, fils. »«
Oui, père. » Ces deux mots, tout petits et simples, firent sur Nicole un effet qu'elle ne sut pas s'expliquer.
« Hé, fils, raconte aux dames. Tiens, une cigarette. »
L'homme se mit à raconter ce qui s'était passé le matin, mais d'une manière qui resta confuse, ambiguë, sinueuse, dans laquelle Nicole ne trouva rien d'intéressant, sinon la voix de cet homme qui la troublait étrangement et qui semblait sortir comme d'un nuage lointain, perdu aux confins d'un monde ancien et d'un présent sans signification. Nicole scrutait ce visage caché, qui ne lui disait rien objectivement, mais lui révélait la naissance d'un mystère qu'elle aurait à élucider. Elle aurait donné cher pour le voir sans barbe, dans autre chose que cette tenue. Mais pourquoi cet homme indéfinissable et pourquoi en cet endroit où sa présence ne semblait pas se justifier tellement il tranchait par son style. Pourquoi émanait de lui cette impression de solitude insondable, d'égarement? Pourquoi ce nom artificiel de père qu'il avait donné à Dagobert et paraissait en décalage sur la réalité?
Toute la narration parut fumeuse à Nicole. Elle savait qu'elle n'en retiendrait pas grand-chose, hors l'impression qu'elle était venue chez Dagobert à la rencontre d'une vision irritante qui allait l'empêcher de dormir, de vivre paisiblement comme elle en avait formé depuis longtemps le projet. Cet homme lui paraissait se forcer à parler parce que Dagobert le lui avait demandé. Il serrait parfois les genoux, regardait Dagobert en fuyant les yeux de Nicole qu'il avait vu interrogateur et d'une limpidité presque embarrassante. Il cessa de raconter ce qu'il savait ou croyait savoir, car il n'avait pas vu, n'avait pas assisté à la bagarre, parce qu'il était à la réparation d'une vieille fourgonnette, aux hangars dont on avait gardé la carcasse et dont les moteurs avaient 10 fois changé de marque. Bu leur thé, les dames prirent congé de Dagobert après s'être assurées qu'il n'avait vraiment aucun soin à pratiquer. « Fils, dit Dagobert, va l'accompagner les dames à leur voiture, je suis trop vieux. Tu descendras le perron, tu ouvriras la porte de la voiture des dames et tu retourneras travailler après. » Charles se leva, guida Madame Dignac et Mademoiselle Ancel jusqu'à leur voiture, exécuta les invites de Dagobert, salua et rentra dans la maison comme un fils respectueux revient chez son père. Rentré à 6 heures à l'officine, Nicolas Ancel prit congé de Madame Dignac et continua patiemment la fin de sa journée sans grandes interrogations. La clientèle la distrayait. Il y avait encore tant de choses à faire avec une attention à ne pas relâcher. Les potions, les inscriptions au tableau, les relevés systématiques d'adresses qu'elle connaissait déjà. Et ce Christophe Libaudet qui avait la manie des ordonnances, interminable et bien sûr illisible. Ah, celui-là! Il n'en avait donc pas fini de consulter, d'ordonner, d'écrire. Où Nicole n'avait certes rien de particulier à lui reprocher, mais ce soir-là, elle crut que par un fait exprès, il avait multiplié sa rage de prescrire comme s'il avait senti de loin l'état d'embarras de la pharmacienne. Coïncidence fâcheuse avec son déplacement au quartier du Nègre, d'où elle avait rapporté un trouble agaçant. À 7 heures, Nicole ferma l'officine, prit avec elle ses livres de compte et monta dans son appartement avec l'intention de travailler. Elle téléphona pour annuler ses invitations du dimanche, prétextant une grande fatigue. Elle subissait en réalité le retour de ce trouble obscur qui serpentait dans toutes les fibres de son corps, se glissait, grignotant et trompeur, s'annonçait là et repartait ailleurs, se levait dans les nuées de son histoire personnelle, remontait les années, descendait dans son ventre ou s'en prenait à la naissance de ses épaules, au-dessous de ses ongles. Elle passait en revue tous les détails de son déplacement aux Essarts et tous les gestes de cet homme étrange qui avait raconté des choses dont ne lui restait aucune trace. Elle n'avait retenu qu'une voix, des jaspes, des éclairs, comme dans un crépuscule, et surtout un visage, un regard évanescent. Elle se sentit de nouveau la proie de vieux tourments. Elle se voyait condamnée à vie à n'avoir que des espoirs passagers. Elle était un pygmalion femelle à naviguer sur des océans de rêves absurdes et fous, à recréer sa propre forme intérieure dans des formes fluentes, à projeter sur des ombres cométaires des désirs qu'elle n'avait peut-être pas. Elle avait en elle un mal ignoré qui avait essayé de se précipiter hors d'elle dans les moments égarés de sa jeunesse solitaire et incomprise. Ce devait être un embrun de ces découragements dont souffrent toutes les jeunesses quand on se jette n'importe où, dans n'importe quelle décision, dans n'importe quelle passion, pourvu qu'elle en soit une et qu'elle apparaisse définitive, sinon une découverte de l'absolu. Alors, tout devient signifiant, chargé de vérité, sinon de réalité, d'éblouissement. Assise dans le fauteuil profond où elle aimait à se reposer dans les heures de lassitude, quand elle avait passé une journée entière à venir d'un rayon à l'autre, à faire des kilomètres sur place, ayant eu un repas rapide de midi comme seul entr'acte, Nicole avait croisé ses jambes, étendu ses bras sur les accoudoirs, laissé aller sa tête sur le dossier à sommet rembourré et confortable. Ce fils chez Dagobert, c'était sûrement Charles Gibou. Enfin, probablement. Et puis non, ça ne pouvait être cet homme, c'était trop idiot, trop inexplicable. Une hallucination imbécile, comme toutes celles dont se repaissent les âmes esseulées. Non, non, ce n'était pas lui, ce mâle, ce sexe double, mais opposé, qui parfois jaillit des profondeurs d'une femme, comme cette femelle qui naît dans chaque garçon, qui se profile d'abord vaguement, ne s'incorne pas tout de suite, ne prend ni forme nette, ni visage dessiné ou reconnaissable. Cette forme nous ressemble, antithèse de nous-mêmes, avec laquelle nous vivons nos premiers amours, dans la découverte de notre chair ou d'un appendice dont nous ne saisissons pas la fonction naturelle. Pendant toute sa jeunesse, Nicole s'était parfois endormie après avoir caressé ce creux de chair au fond duquel elle avait remarqué des remuements, qui n'étaient plus ou moins habités de désirs obscurs. Quand elle avait senti que des seins lui poussaient, comme ceux de sa mère, ce creux avait pris une forme plus marquée. Du premier jour de ses règles, elle avait gardé un souvenir effrayé. Une copine l'avait initiée, et quand il fallut en parler à sa mère, elle crut mourir de honte et du dégoût de soi. Ne parlons pas de ce jour où une autre copine encore lui avait dépeint le sexe des garçons. La nuit suivante, elle n'en avait pas dormi à cause des rêves d'angoisse que cet objet avait fait naître. Lorsque la dite copine alla plus loin dans la peinture, Nicole fut habitée par une panique quotidienne. Elle marchait difficilement pour aller à l'école parce qu'elle serrait les genoux, terrorisée à l'idée qu'un garçon allait vouloir, dans la rue comme ça, sans prévenir, faire entrer un bâton de chair dure dans sa chair molle, à elle et la tuer, la salir par cette violence profonde et irrémédiable. Pendant toute sa 13e année, elle vécut dans une peur lancinante qui troubla son travail. Plusieurs fois, elle recaressa son ventre, son excroissance mystérieuse, et en éprouva des jouissances terribles qu'elle comprenait encore moins, mais reprenait parce qu'elle en ressentait une détente agréable, voire bienfaisante. Dans cet instant de notre histoire, Nicole revivait ces moments qui remontaient déjà loin et dans sa prime adolescence. Elle avait alors beaucoup rêvé d'arbres morts et sombres, isolés dans des plaines fleuries, d'un être indistinct qui la poursuivait avec un couteau. Elle courait, criait ou se retournait. Ses jambes devenaient lourdes et elle tombait à la renverse. Son agresseur la menaçait. Puis, son cauchemar fini, lui laissait un sentiment de faute, dont elle sortait, réveillée en sueur, après avoir mouillé son drap par quelques jets involontaires. Ou bien elle rêvait qu'elle était nue au bord d'un ruisseau, que l'eau s'y agitait, montait comme au cours d'une crue soudaine, sortait de son lit de cailloux. Alors Nicole croisait ses bras sur sa poitrine, dont l'importance la gênait pour courir,
Elle se levait droite dans l'herbe et, voyant que l'eau sortait du ruisseau fiévreux pour atteindre ses pieds, elle s'enfuyait vite dans les prés, se tenait les seins et de nouveau cédait la course éperdue. L'eau allait la rattraper. Non, si, oh, pas encore. Épuisée, elle tombait à genoux sur une terre grasse et profonde. Non pas à genoux, à quatre pattes. Elle se sentait tout à coup paralysée. L'eau grimpait d'un coup à ses cuisses, plaquait à elle. Mon Dieu, prenait sa taille comme des mains horribles et poisseuses. Et pendant que l'eau serrait ses hanches, cette eau détestée mais attendue, léchait le creux de son ventre glacé, en forçant l'étroitesse, l'écartait rageusement et se précipitait en elle pour la fouailler dans ses entrailles. Elle se réveillait en criant, assise sur son lit. Sa mère arrivait en tempête, lui flanquait une gifle et lui hurlait aux oreilles. « T'as pas encore fini de nous faire chier, allez, bientôt on va plus pouvoir roupiller dans cette barque de merde !» Sa mère repartait furieuse et parlait fort à Ferdinand qu'il allait falloir amener sa sale gamine au docteur et qu'elle demanderait qu'on mette cette pisseuse à l'hôpital des enfants malades. Au souvenir de ce passé si sombre, Nicole eut un nouveau froid dans le dos. Mais elle ne saisissait pas clairement le lien avec Charles Gibou. Pourquoi maintenant, si c'était lui? Et pourquoi aujourd'hui? Toute cette aventure avait été oubliée quand elle s'était précipitée dans les études, comme on se jette à la drogue, au monastère ou à la rue. La vision de cet homme avait réveillé en elle de vieux démons. Mais elle ne voulut pas faire sa prière comme elle en avait pris des habitudes jadis, devant son Sacré-Cœur, cette image qui lui apportait le réconfort dans ses plus durs moments. Nicole avait récité des phrases. Non, non, ce soir, ce n'était pas un problème qui appelait des comportements de désespoir. Nicole ne dîna pas, se coucha, essaya de trouver le sommeil. Cela lui fut longtemps impossible. Tout ce qu'elle venait de penser revint à sa mémoire plusieurs fois, dans le désordre, les simplifications, les exagérations. Elle s'assoupit vers minuit, se réveilla vers les 3 heures du matin quand elle entendit des hurlements de pneus suivi d'un choc à l'angle de la rue du Cadran solaire. Puis ce fut le silence des conversations qu'elle distinguait dans le flou. Elle se leva, ouvrit sa fenêtre. Il y avait eu un peu de tôle froissée, rien de grave. Et elle se recoucha sur le dos, sage et tranquille. C'est alors qu'elle revit brutalement l'image de ce Charles Gibou qu'elle avait tant guetté les soirs de semaine dans l'entrée du 51. Mais oui, c'était bien lui. Maintenant, elle en était sûre. Elle revit cette époque de ses 15 ans. Et tout à coup aussi revint le souvenir qu'en se précipitant vers cet homme ténébreux, égaré dans un crépuscule, elle s'était plantée devant lui, elle avait appelé Valentin Lenoir. Ce nom lui revenait subitement. Elle n'avait pas bien distingué son visage, mais elle le sentait sérieux, mécanique, silencieux. Il marchait bien, il était ponctuel et semblait calme. Il devait être un homme bon, gentil, aimable. Et quand il lui arrivait de sourire, ce devait être avec bienveillance. C'était vrai qu'il était vêtu de noir, que tout était noir dans ses apparences, qu'il était alors la représentation exacte de l'idée qu'elle se faisait de l'homme, l'inverse de son père. Elle s'était jetée vers lui en se disant que puisqu'un jour elle se marierait,
et que son ventre serait visité par un sexe d'homme autant que ce fut par la raideur de celui-ci qu'elle avait comme choisi pour cette monstruosité. Nerveuse, Nicole se releva pour aller boire et arriva dans la salle de bain où un miroir en pied lui permettait de s'ajuster le matin avant de descendre à l'officine. Son verre d'eau à la main, elle se tourna machinalement et se vit dans sa chemise de nuit blanche, à laquelle ne manquaient pas les transparences. Oui, depuis qu'elle gagnait bien sa vie, elle avait fait des emplettes de lingerie, jetant dans la poubelle de sa propre histoire tous ces pilous qu'elle ne pouvait plus supporter. À se voir, elle se trouva somme toute assez belle. Elle posa son verre, se regarda encore, arrangea ses cheveux, se tourna pour considérer les arrières de sa personne. Passable. Et si Christophe le Baudet lui avait fait récemment la cour, elle était donc désirable pour un homme qui avait certainement vu de très près bien d'autres jolies femmes, voire coucher avec elle. Elle abaissa le haut de sa chemise de nuit, se mit les mains en coquille sous les seins dont les pointes se durcirent au sentir de l'air plus frais. Sa chemise de nuit tomba jusqu'au sol sans avertir. Elle avait la taille fine et bien prise, les hanches proportionnées, les cuisses et les jambes fuselées. Depuis qu'elle avait fait ses études de pharmacie, le corps masculin n'avait plus de secret pour elle, mais elle ne voyait pas comment elle aurait fait l'amour. D'ailleurs, ce mot n'évoquait en elle que les essoufflements ou les gémissements de ses parents, ou ne lui suggérait que la répulsion. Elle avait désiré un inconnu, mais avait c'était pour trouver auprès de lui refuge et fuite de la famille, ou désirait-elle d'offrir son corps? C'était vrai qu'elle était, tout compte fait, une belle et jolie femme, une belle plante, comme lui avait dit une fois Dida Gobert, qui devait s'y connaître en jupon. Nicole se sourit dans la glace à ce souvenir amusé. Elle se plia, releva et remit sa chemise de nuit. Bon, et maintenant elle devait dormir. 3h30. À 6h, il faudrait reprendre le train de la vie, ouvrir à 8h. Il y a marché le samedi. Nicole finit de boire son verre et s'en retourna dans sa chambre. D'abord, elle se mit sur le côté droit. À 4h, elle se trouva sur le côté gauche. À 4h30, elle était sur le dos et sentait des ondulations dans ses profondeurs secrètes. Alors elle se tourna, se retourna, gémissant des non, et quand elle se retrouva de nouveau sur le dos, elle se laissa emporter par l'imaginaire d'une rencontre avec ce monsieur Gibou, d'un amour qui ne serait plus seulement celui de l'attente sentimentale. Dans l'agitation de son être, elle croyait ressentir la réalité des gestes et commençait à faire remonter le nylon pour prendre l'attitude d'une offrande totale. « Non, je ne veux pas !» cria-t-elle en se levant brusquement et prenant son visage dans ses mains, effrayée par ce rêve éveillé dont elle se sentit coupable et presque malheureuse. Elle aurait dormi 3 heures en tout. Elle était donc folle, déséquilibrée, obsédée. Quand Dagobert passerait la voir tout à l'heure, il serait inquiet qu'elle ne lui prenne pas tout ce qu'elle avait commandé en milieu de semaine. Il poserait des questions. Elle lui apparaîtrait fatiguée, les yeux gonflés. Elle devrait dire qu'elle avait très mal dormi pour telle fausse raison. Mais Nicole n'avait jamais appris à mentir, et le gros nez de Dagobert sentirait la coïncidence avec la visite de la veille. Car Dagobert avait sûrement vu les regards de Nicole en direction du fils, Et Nicole n'avait pas non plus appris comment ton faire son regard impénétrable. De nouveau, Nicole alla boire et remarqua ses yeux d'Hécatie. Elle se désespéra, se sentit méprisable et ridicule. 28 ans et des conduites d'adolescente frustrée. Tout ça n'avait pas de sens. Et il lui faudrait à l'avenir ranger ses sentiments à ricochet, mettre au tiroir de la sottise ses impressions imbéciles, ses rencontres entre le passé et un présent qu'elle se devait de consacrer uniquement à sa profession. Point. Charles Gibou marche dans le jardin d'hiver. C'est la première fois depuis de nombreuses années qu'il revient dans cet endroit qu'il connaissait bien jadis pour en avoir arpenté toutes les allées. Bon, il n'y a pas grand-chose de changé. Le lémurien a disparu, mais les gosses criaillent de la même façon et vous bousculent en courant. Cependant, au quartier du Nègre, auprès de Dagobert, Charles a mieux connu les enfants et a fini par les aimer. Les pelouses sont aussi vertes, les graviers aussi gris. Plus personne ne le reconnaît, ça fait si longtemps. Et puis, il n'a plus du tout ni cette allure, ni ses costumes de jadis. Avant, il était comme certaines races de gens que l'on classe aisément parce qu'elles ont des tics. Il était l'homme en noir, ce bonhomme de la même heure, dans les chiffres et les papiers. Il avait femme, maison, voiture. On pouvait savoir son adresse. On l'appelait Monsieur Gibou, on le saluait ou l'on riait de lui. Il était quelqu'un, comme on dit de personnes connues. Ah, vous savez, celui-là, c'est quelqu'un. Étrange expression qui dit le contraire de ce qu'on croit. Car quelqu'un n'a pas de nom. Aujourd'hui, lui n'a plus d'état civil. Il a disparu sans laisser de traces ni d'adresse. Et par un de ces incroyables retournements du sort, voici qu'il est devenu un homme à part entière, un homme vrai, total, complet. Bien sûr, il n'appartient plus à la société, ce Moloch dévoreur d'identité, ce Cerbère qui vous réduit à un numéro signalétique. Charles Gibault a été rayé des cadres et même de la carte de la France. Jusqu'à maintenant, il n'est jamais sorti des essarts, toujours protégé par Dagobert. On venait peu ou pas faire des perquisitions aux essarts, ce territoire neutre, cet abcès de fixation qui redonnait vie aux égarés et qui transformait les caques patins en êtres humains dignes de ce nom, qui redonnait foi aux marginaux sous la haute bénédiction d'un dieu capable d'offrir un cigare à 2 sous à l'ange Gabriel. Et ce dieu tout-puissant, c'était Dagobert. Il va de soi que Dagobert n'acceptait pas n'importe qui. Il n'aimait pas les criminels qui récidivent, et il aimait trop la paix pour oser se mettre à dos la gendarmerie. Si l'on recherchait un homme dangereux, dans les premiers temps, on allait voir Dagobert, mais quand Dagobert avait dit qu'il n'avait pas chez lui de scélérat, on avait vérifié, et comme on s'était aperçu qu'il disait la vérité, on lui avait fait une sorte de confiance tacite. Parfois, il avait servi d'indicateur à la police, revenait le voir de temps en temps, et pour le principe, et plus pour le petit coup de gnôle. Charles ne savait plus ce qu'était devenue Juliette, et il fallait qu'il se retrouve dans ce parc pour songer à cette femme qui avait été la sienne. Ces 10 années lui semblaient remonter au paléolithique. Il avait abandonné femme, maison, voiture et, qui plus est, métier, argent, situation sociale. Ours un tantinet par nature, il l'était complètement devenu. Il en avait pris les pattes et la démarche. Ce jour-là, dans le parc de la ville, Il marchait légèrement voûté, les bras quelque peu en avant. Et les gens en promenade, ce dimanche après-midi vers 4 heures, le prenaient probablement pour un primate échappé de la cage et que les gardiens ne savaient plus distinguer de la foule. Mais dans son âme la plus profonde, il avait vécu comme une renaissance. D'obscur qu'il était, de mort, de néant, un vieux nègre avait fait un nouvel accouchement de Charles Gibou, l'avait pris dans ses bras et l'avait placé sur sa tête. D'impur, il était devenu propre, sans tache, vierge de toute haine et de tout désabus. Il avait enfin aspiré l'air à plein poumon, avait arraché de sa peau la carapace du crétinisme ambiant sous lequel il avait étouffé pendant des siècles. Dagobert, dieu ou magicien du corps et de l'esprit, avait appris à Charles ce que c'est que d'aimer, ce que l'accueil veut dire, ce que dicte la nature. Pour cela, Dagobert ne disposait d'aucune idéologie, d'aucun système. Sa recette est de la plus évidente simplicité. Pas de ce contrat social qui régit la société, nous entoure de ce qu'un très grand psychologue appelle les personnes épuisantes. Si l'on était près de Dagobert, soit l'on buvait avec lui du thé à la menthe, soit l'on s'asseyait, par exemple, sur les marches du perron des Essarts. On restait assis, on ne disait rien d'inutile, parce qu'on disait rien du tout, puisque l'on se sentait bien et parce que l'inutile brise de temps restreint de la vie. On se grattait la jambe, le cuir chevelu, les aisselles, on se mettait les doigts dans le nez, on crachait loin sur les graviers, on rotait si besoin était, on se levait pour aller, on savait où, on jouait au foot, on pissait ensemble, on tirait à l'arc, on repiquait des salades, on venait se rasseoir, on regardait Dagobert qui se mettait à rire avec son moule à gaufre. Alors on riait aussi parce que c'était un grand moment. On était heureux d'être près de Dagobert. On était heureux sans savoir pourquoi, mais on était heureux. Dagobert suintait la détente et le plaisir de vivre pour vivre. Avec Dagobert, on était un des deux amis du Monomotapa, et Charles Gibou avait eu le privilège d'être accueilli aux Essarts sans que Dagobert lui demande rien. Et quand Charles s'était mis à bricoler au milieu des bouts de bois des ferraillers du jardin, il l'avait fait par impulsion, par désir naturel de donner un coup de main à son hôte. Avec Dagobert, Charles n'avait plus réfléchi, ne s'était pas posé la question de savoir s'il fallait être reconnaissant, s'il avait des dettes envers cet homme. Il faisait et tout allait bien. Dagobert ne lui disait jamais de faire comme ceci ou comme cela, d'aller ici ou là, s'il aimait ou n'aimait pas. Ces détails n'avaient aucune importance. Chez Dagobert, on dormait parce qu'on avait sommeil, on mangeait parce qu'on avait faim. Mais il n'y avait ni cloche, ni heure, il n'y avait ni salaire, ni réprimande, ni aigreur, ni félicitations. Le maître, tout à fait respecté, n'ordonnait rien, et tout était accompli. On comprendra le contraste violent, oh combien agréable, que Charles ressentit pendant ces années qu'il avait passées aux Essarts, et qu'il n'aurait pas échangé contre richesse ou pouvoir, contre un bonheur obligatoire ou acheté. Avant, dans sa boîte crânienne, il y avait eu ce qu'on appelle un sac de nœuds. Aujourd'hui, dans le parc de la ville, Monsieur Charles Maxime Irénée Gibou n'appartient plus à la société et ne comprend plus les conversations que l'on y tient. Ah, bonjour, Madame Truc. Au revoir et à bientôt, Monsieur Chose. Comment allez-vous? Pas mal, merci. Sandrine, mouche ton nez. Mais fais attention, enfin quoi, et pif sur la joue et paf sur la fesse. Stéphane, prête ton vélo à ton frère. Il ne sait plus la langue de l'ordre, de l'offre et de la demande. Il avait été comptable, mais sait-il encore faire ses quatre opérations? Saura-t-il même lire? Car Dagobert lui a dit après le déjeuner: Charles, mon fils, entre mes fils, tu vas me rendre un service d'aller chercher mademoiselle Nicolasselle. Je suis fatigué, parce que je vais mourir, je le sais. Oh, chez moi, j'ai vu le sang. C'est le message de mon Dieu. Elle habite aux deux rues du Cadran Solaire. Tu connais pas? Mais sa porte est à gauche de la pharmacie où il y a marqué la pharmacie du Chapeau Rouge. Je veux que ce soit toi, elle aura moins peur, tu comprends, toi? Il était parti comme le serviteur de Job à qui le maître dit « va » et il va. Si Dagobert allait vraiment mourir, c'était dans le train des choses. Dagobert n'était pas un dieu éternel, mais Charles ne put s'empêcher de verser quelques larmes pendant son heure de marche. Et s'il était voûté ce jour-là, c'était surtout à cause de son chagrin. Bien sûr, Dagobert se trompait peut-être, mais s'il avait raison, la douleur de Charles serait grande et sans remède. Il n'y a rien de bon à perdre, ce qu'on a le plus aimé pendant toute une vie ou quelques secondes. Ces 10 ans étaient passés comme un paraphe en un trait de lumière. Dagobert arrivait au ciel, les deux fils noirs se battraient pour savoir qui serait le chef. Chez les petits-fils, oh, il y aurait des histoires de préséance, et la présence de Charles deviendrait difficile, sinon impossible. Il était repassé par le jardin d'hiver, non pas pour retrouver son passé, ce qui l'aurait fait vomir, mais parce qu'il aimait bien les animaux, les paons, les pélicans, les aras, les onagres et les singes dont il a rêvé d'être à certains moments. Donc il y traîna un peu afin de redécouvrir quelques cris. Et puis, sans savoir pourquoi, il retardait le moment de sonner à cette porte, de revoir subitement, sans préparation lente, cette jeune femme dont le regard le scrutait étrangement vendredi soir. L'autre femme, la vieille, il ne s'en souvenait qu'à peine, une antiquité maniérée qui avait hésité à s'asseoir, regarder où elle mettait les pieds, passer les portes après un arrêt de vérification. Et pourquoi prévenir particulièrement cette demoiselle en selle? Avant ce vendredi, il n'avait jamais entendu parler d'elle, ne l'avait jamais vue. Un secret de Dagobert? Charles sortit du parc et s'en alla vers cette rue du Cadran Solaire. Et plus il en approchait, plus il ralentissait, sentant qu'il redevenait timide, car il allait faire de la peine. Il ne comprenait plus bien cette réaction ancienne dont il avait tant souffert quand il avait tardé pour aborder Juliette. Mais maintenant, ce n'était pas la même situation. Il n'était pas parti pour une déclaration d'amour ni de désir. Et pour le désir, il avait eu plein de jeunes noirs qu'il avait choisis ou que leur mari lui avait prêtés. Il arriva devant ce deux. Porte en chêne, sonnette en laiton, un gros décrotoir de jadis. À l'étage, un long balcon en fer forgé, peint en blanc, de grandes portes-fenêtres blanches à petits carreaux, et en dessous, la pharmacie du Chapeau Rouge, peinte en blanc, elle aussi, avec en enseigne un haut de forme en toile rouge cardinalis. La rue était très silencieuse, pleine de soleil comme dans les dimanches de fête, lorsque tous les habitants sont en promenade ou en pique-nique à la campagne. Et Charles se disait que la demoiselle Nicolasselle, en question, ne serait pas chez elle. Mais, commission oblige, il fallait sonner. Il sonna, faisant tourner le bouton plat en laiton.
Le bruit de la sonnette fut puissant au point que Charles regarda de droite et de gauche, croyant que toutes les croisées de la rue allaient s'ouvrir et lui présenter des gargouilles curieuses de ce dérangement. Non, rien. Après 3 bonnes minutes d'attente, il allait recommencer quand il entendit des talons frapper le glacis du couloir. Bruit de clé pour une fermeture à barre verticale. Mademoiselle Nicolancel ouvre. Charles la regarde, ne sait pas où mettre ses mains, va bredouiller quelque chose, quand soudain la demoiselle prend un phare cramoisi jusqu'aux oreilles et que sa main gauche s'appuie au mur du couloir comme si elle allait défaillir. « Monsieur, je n'ai rien à vous donner, le dimanche. Mais, mademoiselle, je ne suis pas venu pour... Revenez plutôt à la pharmacie mardi matin. » Non, pas pour vous demander quelque chose. Non, je suis là-bas. Monsieur, je vous assure, je suis très occupé et je n'ai pas le temps à vous consacrer ni d'argent. Allez chez les dames du Bon Secours. Elles ont un bureau permanent à l'église. Voilà. Nicole avait presque refermé sa porte. Charles s'agita et dit vite que c'était pour Dagobert. Ah, Nicole rouvrit. De troutrouche qu'elle était, à l'instant, elle devint pâle comme un disque de lune. Tout se bousculait en elle. Ce dimanche, sa solitude, ses rêves, cet homme qui l'avait tellement troublée se trouvait là, sur le trottoir, celui dont elle avait cru et croyait encore que c'était bien Valentin Lenoir, mais sale, mais barbu, mais clochard. Et voici qui lui disait le nom de Dagobert. Cet amas de coïncidences était pour lui faire perdre ses esprits. Irénée, oh oui, c'était bien Irénée devant elle. Elle qui avait couru comme une folle pour retrouver un fantastique amant, qui avait reçu la gifle d'une femme jalouse et hystérique. C'était tout à la fois et bien trop depuis ces 2 jours où ses sentiments avaient vacillé dans la confusion. Qu'avez-vous, mademoiselle? Demanda-t-il inquiet. Rien du tout, non. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de Dagobert. C'est tout simple, mademoiselle. Dagobert m'a dit qu'il allait mourir. Il a reçu de son Dieu un message, puisque le sang a coulé chez lui. C'est que sa mort est très proche. Il est fatigué, il se sent pas très bien. Alors il m'a dit de venir vous voir et de vous dire ça. Vous voyez, je suis pas venu sonner pour vous demander de l'argent. Excusez-moi, c'est ma tenue qui vous a induit en erreur, sans doute. Au revoir, mademoiselle. Rappelez-vous d'Agobert. Il y avait dès lors une chose dont Nicole était définitivement sûre. Cet homme était Charles Gibou, Irénée, Valentin Lenoir. La voix lui renvoya un souvenir éclatant de vérité. C'est moi qui vous demande des excuses, monsieur, pour mon impolitesse. Puis-je être indiscrète et savoir, enfin, je... Au savoir mon nom, oh mon nom, oh, si j'en ai encore un, ne vous dirai rien. Je suis, oh, comment dirais-je, je suis un disparu. Oui, c'est ça, un disparu, un sans chiffre, un sans carte, un marginal, un sans sécurité sociale qui ne peut intéresser une pharmacienne. J'ai appartenu à ce qu'on appelle la civilisation. Aujourd'hui, oh, j'habite une planète où vivent des gens en fuite d'anciens malheureux. Je vis dans les bols, les salades, la ferraille, le nègre et les exclus. Alors, mon nom, eh bien, je m'en retourne. Au revoir, mademoiselle. Excusez-moi encore une fois pour ce dérangement.
Sous l'effet de cette lente réplique, Nicole eut la gorge serrée. Lui s'en alla, mais s'il s'était retourné avant que la pharmacienne referme sa porte, il aurait vu sur les joues de Nicole Ancel deux traînées brillantes jaillies de ses yeux.